Alors, donc, se sentir bien à Paris, la place de la nature. Plusieurs questions. Les deux questions principales, c'est quelle est la relation entre les caractéristiques physico-chimiques d'un lieu et ses représentations, et quelle est la place de la nature dans la représentation que l'on a d'un lieu. Ensuite, la deuxième question importante, c'est la diversité des sensibilités. Quelle place de la nature dans le fait de se sentir bien dans un lieu? Il faut savoir qu'en géographie, il y a deux courants qui se sont préoccupés de la perception, hein, et du sensible. Le premier courant, en fait, c'est dans l'ordre d'idées de Piaget. Et donc, on a un courant en géographie qui s'est approprié les idées de Piaget et la définition de représentation qu'il a fait. Pour construire des concepts et des notions qui permettent d'intégrer la perception à la géographie. Alors, je vous donne la définition de représentation de Piaget, puisqu'elle est fondatrice. Alors, la représentation consiste, selon Piaget, soit à évoquer des objets en leur absence, soit, lorsqu'elle double la perception en leur présence, à compléter la connaissance perceptible en se référant à d'autres objets non actuellement perçus. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la représentation, on se représente un objet soit en sa présence, soit en son absence. Mais c'est toujours une représentation de l'objet. Voilà. Alors en 70, premier courant géographique qui prend en compte les idées de Piaget, c'est la géographie de la perception, dont les principales figures, c'est Bailly et Bertrand, qui écrivent un article en 74 dans l'espace géographique et qui introduisent l'idée de la relativité de la perception de l'espace, ce qui est relativement nouveau, et qui aussi introduisent l'idée qu'il y a des filtres entre le réel et la perception qu'on se fait du réel. En 1990, le courant se transforme en un courant qui va s'appeler la géographie des représentations, même si c'est le même courant. Et là, on va surtout analyser le rapport qu'il y a entre les caractéristiques structurelles et fonctionnelles d'un espace et ses représentations mentales. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre quelle est la relation entre les fonctions d'un espace et la représentation qu'on en a. Et c'est important ce courant-là parce qu'il est à l'origine d'un outil qu'on aime beaucoup utiliser en géographie qui s'appelle les cartes mentales. Et donc, tout simplement, pour connaître la représentation que les gens se font d'un espace, on leur demande de le dessiner. Voilà, et c'est un outil qui est très développé en géographie. Alors, il y a une deuxième limite pour moi par rapport à ce courant. Enfin, c'est que, enfin, une première limite, puisque je n'en ai pas donné de première, mais c'est pas grave. C'est que, en fait, il n'y a pas dans cette notion de représentation le filtre qui vient de l'appréciation qu'on se fait de l'espace. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la relation personnelle qu'on peut avoir à cet espace-là. Donc, pour moi, il y a, en tout cas, l'outil des cartes mentales et ce courant-là, il manque tout ce qui pourrait venir de l'affectif, du vécu qu'on peut avoir dans les espaces. Voilà, donc pour moi, c'est un grand manque de ce courant-là. En parallèle, on a eu un deuxième courant en géographie donc, qui s'est préoccupé de perception qu'on peut avoir des espaces. C'est la géographie que j'ai appelée phénoménologique, même si elle n'existe pas en tant que telle, dont la première personne, la première figure, c'était Éric Dardel, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'homme et la Terre » en 1952. Et qui découle directement du courant de la philosophie phénoménologique. Vous avez déjà entendu parler avec Merleau-Ponty. Voilà. Et c'est aussi un courant qui considère que la perception est première dans l'expérience que l'on a de l'espace et qui, en fait, a utilisé directement les écrits de Merleau-Ponty intégrés à la géographie. Alors, je vous donne quelques figures récentes qui sont dans cette géographie phénoménologique. Armand Frémont, la région espace vécu. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a le vécu derrière, donc ça veut dire qu'il y a l'affectif qui a été pris en compte. Dimeo, bon, j'ai pas tous ses livres sont à peu près là-dessus, donc j'ai pas un livre particulier. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Frémont a écrit un dernier livre en 2009 qui s'appelle Normandie sensible et qui est toujours dans ce même ordre d'idées-là. Et on a aussi également quelqu'un qui s'appelle Berck, Augustin Berck, qui est un philosophe géographe, qui a en fait a fait un livre assez fondateur là-dedans, qui s'appelle Médiance de milieu en paysage, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui date de 86, où en fait il compare la perception de la nature entre la France et le Japon, avec une approche vraiment fondée sur la perception, la manière de percevoir les sens et le sensible, etc. Donc ça, c'est pour moi, je dirais que Dardel, Frémont, Dimeo, Berck, c'est vraiment les principales figures de ce mouvement-là. Dans ce mouvement-là également, moi, il y avait quelque chose que je ne trouvais pas, c'est-à-dire qu'en fait, les avancées récentes de neurosciences n'étaient pas intégrées. Puisqu'en fait, dans les années 70-80, on a eu un gros développement de tout ce qui est imagerie cérébrale, qui en fait provoquait d'énormes avancées dans la connaissance du processus de perception. Donc ça n'a pas été intégré. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai fait appel aux neurosciences, en fait. Donc j'ai mis, voilà, constat, un vide théorique dû à une double négation, du vécu sensoriel dans la notion de représentation de l'espace pour la géographie des représentations, des avancées en neurosciences pour la géographie phénoménologique. Et donc j'explique, c'est à cause de ces deux vides, de ces deux négations que je suis allée voir du côté des neurosciences. Et en fait, j'ai travaillé avec un neurophysiologue de l'olfaction, parce que moi, mon travail est surtout sur l'olfaction, pendant quasiment 10 ans, qui s'appelle Patrick MacLeod, donc qui était directeur d'un laboratoire de neurophysiologie de l'olfaction de l'INRA à Jouy-en-Josas. Et aujourd'hui, je travaille avec un autre directeur de laboratoire, d'un laboratoire de neurobiologie de l'olfaction et de la prise alimentaire, qui est Roland Salez. Voilà, donc je continue la collaboration. Une petite parenthèse sur l'apport des neurosciences, quand même pour un peu plus argumenter le fait d'être allé les chercher. La première, c'est la complexité du processus de perception. C'est-à-dire que, en fait, dans le processus de perception, contrairement à ce qu'utilisent les géographes dans leur notion de représentation, il y a, en plus du mental et du fonctionnel, des représentations mentales et fonctionnelles, on a des représentations qui sont multisensorielles, c'est-à-dire qu'il y a l'ouïe, l'odorat, la vision, bien sûr, le toucher, le goût qui rentre en compte dans nos relations à l'espace. Alors le goût, ça paraît peut-être un petit peu difficile, mais on peut y arriver quand même. Il y a également l'émergence d'émotions et l'excitation du centre du plaisir, c'est-à-dire que dans le processus de perception, quand on sent, si ça nous rappelle quelque chose, quand on voit, quand on perçoit, si ça nous rappelle quelque chose qu'on a déjà perçu, on va avoir l'émergence du souvenir, et avec l'émergence du souvenir, on va avoir de l'émotion et du plaisir qui vont venir. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très important. Et ensuite, donc, j'ai mis le jeu de boomerang entre mémoire et conscience. C'est-à-dire que quand on perçoit par rapport au passé et pas simplement par rapport au présent. D'accord ? Et alors, l'autre chose que je pourrais rajouter, c'est que quand on perçoit, on ne fait pas simplement qu'avoir une image multisensorielle dans la tête, on a également le centre du plaisir qui se réveille, et aussi également, pas tout le temps, mais des émotions qui se réveillent. Ensuite, deuxième apport des neurosciences, c'est la complexité des représentations des lieux. C'est-à-dire que, en fait, on se représente les lieux d'une manière multisensorielle, hédonique et émotionnelle. Hédonique, c'est ce qui est relatif au plaisir, en plus de mental et fonctionnel. Donc voilà, ça me permet d'avoir une définition des représentations d'un lieu qui paraît pleine, beaucoup moins appauvrie de ce qu'on peut ressentir dans un lieu que ce que la géographie avait l'habitude de considérer. Alors, définition. Alors, j'ai tenu à faire une définition du bien-être aussi en m'appuyant sur les neurosciences. Donc, le bien-être, c'est excitation modérée du centre du plaisir et éventuellement une touche d'émotion agréable. Donc voilà, on est vraiment dans la physiologie de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que quand j'utilise le terme sentir, sentir bien, se sentir bien à Paris, quelque part, se sentir bien, c'est être dans le bien-être. D'accord ? Donc j'ai fait la définition du bien-être. Deuxième définition, la définition de nature. Alors je pense que vous allez être étonnés parce que la mienne est très très large. Elle vient d'un philosophe qui s'appelle Drouin. Donc, Drouin a écrit un article qui s'appelle « L'essence de la nature, une notion équivoque mais irremplaçable ». Dans un livre qui s'appelle « Environnement, représentation et concept de la nature » et qui date de 92. Donc ça, je pourrais vous donner les références. Donc définition de nature, tout ce qui, dans notre environnement, nous résiste, nous surprend et nous échappe, nous inquiète et nous enchante, toutes les déterminations causales que nous pouvons étudier, sur lesquelles nous pouvons agir, mais que nous ne pouvons pas supprimer. Alors, deux hypothèses par rapport à notre questionnement. La première hypothèse, la dimension multisensorielle de la représentation d'un lieu est liée à la présence de nature, au sens traditionnel et au sens de droit. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la définition de droit est intéressante parce qu'elle permet également d'inclure le sens traditionnel, entre guillemets, de la nature. Alors, ce que j'appelle le sens traditionnel de la nature, c'est de considérer la nature comme étant le végétal, l'animal sauvage, l'eau, enfin des choses comme ça, ou tous les phénomènes climatiques, d'accord ? Donc là, on sort un petit peu de ça. Alors pourquoi j'ai insisté sur la dimension multisensorielle ? Parce que ça nous permet également d'inclure la dimension du bien-être. C'est-à-dire que de la dimension multisensorielle vient le fait qu'on va être touché ou pas par quelque chose. Et que le centre du plaisir va être excité et que peut-être une émotion positive va venir. Alors, en hypothèse 2, j'ai mis se sentir bien dans un lieu dépend de l'importance de cette nature. Alors, quels sont les deux terrains gênants ? J'ai choisi trois terrains. Alors, vous verrez qu'il y en a cinq sur la carte, mais c'est parce que je n'ai pas présenté tous mes terrains. J'ai présenté ceux qui me paraissaient intéressants pour la problématique d'aujourd'hui. Des terrains de petite taille et de morphologie urbaine distincte. Alors, trois terrains. Une percée haussmannienne du début du XXe siècle, la rue Lagrange. C'est une petite rue qui donne directement, c'est une percée haussmannienne qui donne directement sur Notre-Dame. Un lotissement de maisonnettes d'entreprise du réseau ferré français, le quartier des Peupliers, qui date également du début du XXe siècle. Si vous connaissez, c'est dans le XIIIe. Ça, c'est un peu le fin fond du XIIIe. Hein, c'est à côté de la poterne des Peupliers, peut-être que vous connaissez. Et le troisième quartier, qui est en fait un habitat collectif, qui est constitué d'une barre et d'une tour des années 70 autour de la place Pinel. Ce que je voulais dire, c'est que les quartiers ont été choisis de l'ordre de quelques hectares, un hectare en général, tout simplement pour qu'ils puissent être perçus par tous les sens possibles. Voilà, donc un petit espace pour que l'usager, selon ses capacités, mais si ses capacités perceptives sont au maximum, puisse tout ressentir. S'il y a de l'odeur, qu'il puisse sentir l'odeur. D'accord ? L'autre chose aussi, c'est que j'ai pris trois quartiers qui avaient une histoire, une idéologie urbaine très différente, tout simplement pour voir si la matérialité conditionnée par l'idéologie urbaine derrière avait une influence sur les représentations qu'on a du lieu et le bien-être. Percée haussmannienne du 19e siècle, lotissement de maisonnettes qui ressemble à ce qu'on appelle des cités-jardins, et le troisième, donc l'idéologie fonctionnaliste de l'après-guerre. Sachant que l'autre intérêt aussi, c'est que c'est des lieux, dans le sens lieu. Un lieu, c'est un endroit qui a un nom et qui a en plus une matérialité bien distincte par rapport aux autres, qu'on peut facilement identifier. Voilà. J'ai rencontré 25 personnes par quartier, dans des entretiens qui ont en général duré de 2 à 3 heures, et avec donc une grille d'entretien assez large. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose sur les trajectoires d'habiter, l'histoire personnelle par rapport à l'habitat, donc le récit du choix du logement, les origines, ville ou campagne, milieu, religion, les différentes formes de logement habité et les raisons des changements ou de l'habitude. J'ai fait quelque chose, enfin les entretiens étaient aussi autour des espaces qu'ils pratiquent, donc l'habitat, l'orientation de l'habitat, la vue, la luminosité, les pièces qui sont les plus fréquentées, l'ouverture, la fermeture des fenêtres, les plantes, le jardinage, les animaux, les odeurs, la pollution, le tri sélectif, la nourriture biologique, etc. Quelque chose aussi autour du quartier, c'est-à-dire quelle est leur perception, leur représentation du quartier, qu'est-ce qu'ils en font et comment est-ce que c'est un cercle de sociabilité ou pas, par exemple. Ensuite, Paris, parce que c'est tous des Parisiens, quels sont les espaces qu'ils pratiquent, quels sont ceux qu'ils aiment et celles qui trouvent désagréables. Ensuite, il y a quelque chose autour des trajets qu'ils adoptent quotidiennement. Alors après, vous pouvez me poser la question des trajets, je vous répondrai pourquoi j'ai choisi les trajets. Donc les tracés, les moyens de déplacement, et puis tout ce qu'ils peuvent apprécier ou non apprécier dans les déplacements qu'ils font. Et ensuite, en dernier, le rapport à la cité, quelle est leur connaissance du quartier, leur relation avec le voisinage et les engagements associatifs et politiques qu'ils peuvent avoir. L'objectif, c'était de voir quelles étaient les interactions possibles donc, entre la matérialité de leur quartier et leur représentation de ce quartier et leur ressenti de bien-être. Premier quartier, le square des Peupliers. Alors, ce que je vais faire en première partie, je vais vous donner les représentations dominantes de chaque quartier. Donc, la première représentation du square des Peupliers. Alors, vous voyez que c'est le square des Peupliers. C'est un tout petit espace qui est très, très végétalisé. Hein, les haies sont rarement coupées, il y a énormément d'arbres, même si les espaces, les petites courettes devant les maisons sont tout petits. Bon, c'est surtout ça que vous reteniez. Sinon, la population, la composition sociale du quartier, c'est plus de 50% des chefs d'entreprise, des cadres et des professions libérales. Donc, c'est des gens qu'on peut dire relativement aisés, sachant que c'est la deuxième génération d'habitants. C'est-à-dire que la première génération, c'était pour des ouvriers, plutôt des contremaîtres, et qu'après, ça a été racheté dans les années 70-80 par une population beaucoup plus aisée, sachant qu'aujourd'hui, il y a encore une troisième génération, mais je n'entrerai pas dans les détails. Je vous décris un petit peu la vie dans ce square pour arriver en fait à la représentation de ce square lui-même. Donc le jardinage est un passe-temps important pour les habitants de ce quartier, comme celle d'avoir des activités communes. C'est-à-dire qu'il y a le jardinage et il y a aussi ce qu'on va faire ensemble. Donc c'est étonnant, il y a un vivre ensemble dans ce quartier-là. Les nouveaux habitants, vous voyez, il y a une opposition entre les nouveaux habitants et les anciens habitants, sont très soucieux de leur plantation. Ils passent du temps et prennent plaisir à s'en occuper. Alors on voit ça dans la manière qu'ils ont de choisir leurs plants. Alors ils disent par exemple, ce sont des géraniums qui ont de la finesse et qui sentent bon, ce qui est assez original. Ils n'hésitent pas à faire pousser des plantes, des espèces potagères dans leur petit jardinet. Faut savoir que le jardin, c'est uniquement l'espace qui est devant la maison, d'accord ? Il n'y a pas d'espace arrière, donc c'est vraiment... En général, ça fait 5 mètres carrés maximum, quoi, d'accord ? Donc, en général, ils ont des espèces potagères. Et pour eux, le jardinage est donc un moyen de développer leurs sens, donc l'olfaction, le goût, le tactile. Ils m'ont même parlé du toucher de la terre et le duvet de certaines feuilles. Donc, ça va quand même très, très loin. Alors, les anciens, par contre, habitants du square, ce sont eux qui ont mis en place des rites communautaires. C'est-à-dire qu'il y a une chorale du square. Tous les lundis soirs, tous les habitants sont invités à faire de la chorale ensemble. Et il y a également une fête du square qui se passe une fois par an. Alors, ces anciens habitants, plutôt que de parler de jardinage, ils vantent, eux, la convivialité du square, qui est donc fondée sur ces rendez-vous ponctuels. Et ils disent en plus que tout ça, c'est se fait dans une grande discrétion. Ici, les gens ne sont pas du tout intrigants. Alors, intéressant, cette manière de vivre qui est déjà assez spécifique est relayée par une association qu'on appelle l'Association des Peupliers, qui a été relancée, parce qu'elle existait déjà depuis un moment, par les nouveaux arrivants. Alors, qu'est-ce que fait que cette association des Peupliers ? Elle s'est mise en place, en fait, pour que soit transformé le quartier en quartier tranquille. Alors, je ne sais pas, vous n'êtes pas parisien, à mon avis, mais bref, il y a eu un arrêté municipal qui a mis en place une espèce d'aménagement particulier pour certains quartiers, disant que les quartiers qui étaient plus résidentiels de Paris pouvaient être transformés en ce qu'on appelle les quartiers tranquilles, c'est-à-dire qu'on allait mettre des dodanes, on allait rétrécir les rues, on allait aménager les places d'une manière un petit peu particulière, tout ça pour décourager la circulation automobile. Et donc, cette association, pour faire avancer leur projet de quartier tranquille, en fait, elle a mis en place des actions qui sont très symboliquement marquées. C'est-à-dire qu'elle a aménagé, et elle continue à aménager, un potager sur un rond-point du quartier, où les enfants, en fait, de l'école vont planter des fraises et des choux et des petites tomates. Et elle a aussi construit une vache grandeur nature en papier mâché qu'elle fait marcher dans le quartier en faisant des tracés symboliques, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en plus en fait de cette représentation, de cette vie, de cette pratique du quartier entre jardinage et vie communautaire, il y a également tout l'idéal de vivre à la campagne en fait, qui est nourri, alimenté par l'association des Peupliers. Donc en fait, on arrive avec tous ces aimants-là, à une représentation du square des Peupliers qui est proche d'un rural idéalisé, puisque c'est un rural où il y a un vivre ensemble. Donc vraiment un vivre en ville à la campagne. Rue Lagrange, donc je vous avais dit que c'était une percée haussmannienne qui est très prisée par les automobilistes qui débouchent donc sur la Seine et sur Notre-Dame et en fait relativement polluée. Alors, les habitants de la rue Lagrange sont également, mais là en très grande majorité, à 75% des chefs d'entreprise et des cadres supérieurs, et en général plus profession libérale que cadres intellectuels, alors que dans l'autre quartier, c'était plus des cadres intellectuels. Alors, ce qui est intéressant dans cette rue Lagrange, si on conserve le prisme du végétal, c'est qu'il n'y a quasiment aucune végétation en extérieur. Bon, si vous avez des bons yeux, vous allez le voir, mais bon, les photos sont pas très grandes. À part quelques végétations, tout ce qui est pots des commerçants qui servent en fait à agrandir leur emprise sur l'espace public. En général, donc ce sont des plantes, s'il y en a, c'est des plantes ce qu'on appelle de la végétation Kleenex, qu'on achète uniquement pour faire de la couleur et qu'on jette dès qu'elles sont fanées pour les remplacer, d'accord ? Donc il y a une dimension d'apparat très très fort dans le végétal dans ce quartier-là. Alors je vous donne un exemple. Une personne, quinquagénaire commerciale en tailleur pantalon et femme d'un écrivain connu, dont je tairai le nom, Mets des fleurs selon les arrivages, bégonia ou pétunia sur le rebord en fer forgé de ses garde-corps et les jette appelés floraison. Voilà. Donc les différentes raisons que l'on peut voir à cette absence de végétation, c'est d'abord le fait que les habitants savent que leur rue est polluée, mais c'est également parce qu'on est sur un style de vie dans l'habitat haussmannien, au niveau idéologique, qui repose vraiment sur tout ce qui est du domaine de la représentation. Alors ça, c'est Habermas qui a développé ça, je ne vais pas le développer cette fois-ci. Mais en gros, c'est comme si le fait que l'immeuble haussmannien soit fondé sur la séparation des fonctions, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part, mais en gros, la grande nouveauté de l'immeuble haussmannien, c'est que y ait un salon pour recevoir les invités et les personnes de passage et que toutes les autres fonctions qui sont moins bien vues et secondaires sont cachées des yeux. Voilà, c'est vraiment ça. Donc en gros, si on a des plantations rue Lagrange, c'est uniquement pour alimenter ce côté représentation, mais pas pour la plante en elle-même et pour son côté vivant. Voilà. Bon, j'espère que j'ai bien résumé. Donc dans les entretiens avec les habitants, il y a peu de plaisir qui est énoncé en dehors du visuel. Même c'est le seul endroit où personne ne me parle du plaisir de cuisiner. Alors le plaisir de cuisiner, ça peut également être lié à l'agencement de l'appartement haussmannien. En fait, les cuisines sont extrêmement petites et donnent en général sur une cour qui est quasiment aveugle. Donc c'est pas un espace agréable à habiter. Mais on ne peut pas tout expliquer par l'agencement de l'appartement. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que l'absence en fait de récits, de perception sensorielle va également avec une absence de relations sociales, profondes entre guillemets. C'est-à-dire que les gens ont peu de relations avec leurs voisins, c'est des bonjours, bonsoir, c'est uniquement des relations de convenance. Alors je peux vous donner une citation. Nous croisons quelquefois les voisins, en général ils sont très gentils avec les petites, affirme une infirmière, mère de 3 petites filles. On fera tout à l'heure la synthèse de cette représentation de la rue Lagrange, mais qui est vraiment très, 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 très spécifique. Alors, j'arrive à mon troisième quartier, qui est l'ensemble du 7 Place Pinel. Donc là, vous voyez, en fait, il y a plusieurs choses sur cette photo, sur cette diapo. Là, c'est la tour. Là, on a la barre, qui est relativement importante, même si on ne la voit pas complètement. Et ça, en fait, c'est la place sur laquelle donne ce grand ensemble. Il faut savoir c'est que cette place-là, c'est une place du 18e, 17e, 18e siècle, qui est en fait l'ancien centre-bourg de ce qu'on appelait le village des Deux Moulins. Voilà, donc il y a une densité historique au quartier. Alors, la population qui habite cet ensemble du 7 Place Pinel, c'est une population relativement modeste. C'est-à-dire qu'en général, c'était des anciens ouvriers, des personnes relativement âgées, ou alors des cadres intermédiaires. Et puis, bon, je suis quand même tombée sur des personnes qui avaient été pistonnées pour avoir un habitat social. Mais en général, c'est plutôt des Parisiens relativement peu aisés, on peut dire ça comme ça. Si on part du prisme du végétal, il y a un très grand espace central qui est en fait un grand jardin, qui est relativement, en tout cas, fourni. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce jardin sert à satisfaire en priorité le visuel. Alors, je vous donne une citation intéressante. Les sapins, je trouve ça bien, c'est vert tout le temps, même en hiver, et puis ça cache de la vue. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de l'élément végétal au 7 Place Pinel, c'est que ça cache des voisins et que c'est toujours vert. Voilà. C'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce cœur d'îlot qui est important, alors est-ce qu'on voit... Alors en gros, là, ce qu'on étudie là, c'est ça. Et on va dire qu'il prend, il prend une bonne partie du centre quand même, le centre qui est vidé en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que peu de gens l'utilisent, cet espace vert-là. C'est-à-dire que les enfants ne font que passer, et les habitants pareil. Et les enfants ont le droit de jouer sur les pelouses, etc. Donc il n'est quasiment pas habité, ce jardin au centre. Donc la fonction essentielle de ce jardin est donc visuelle, isolée, donner l'idée du vert de nature par le vert. Fonction assez restrictive, mais qui est respectée par tous. Les habitants n'énoncent pas d'autres sens mis en éveil grâce à ce jardin. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que même les personnes âgées n'énoncent pas de pratiques jardinières et elles disent même « Je ne tiens pas à ce que les gens m'apportent des fleurs et des plantes, car il faut s'en occuper. » C'est assez particulier. Donc, ces habitants énoncent peu de perceptions. Même si on parle du jardinage, il y a peu de perceptions qui sont énoncées. Le cadre bâti est homogène et monotone. Et cette monotonie est même entretenue par les habitants qui, s'ils plantent des choses, et rarement, plantent tous la même chose. En général, c'est des géraniums qui sont roses ou rouges. Donc il y a une sorte de silence sensoriel, ou du moins une homogénéité, et une absence de variété qui réduit les possibilités d'être affecté sensoriellement. Alors c'est vrai que la différence avec les autres quartiers, c'est que ces habitants-là n'ont pas choisi d'habiter là, hein, mais ils ne s'en plaignent pas non plus. Et en général, les choses sur laquelle ils insistent, c'est la convivialité de la place Pinel, dont je vous ai expliqué un peu l'historique tout à l'heure. Alors je vous donne un exemple, une ancienne couturière de 90 ans qui me dit « les commerçants ici sont vraiment gentils ». Voilà, alors j'arrive à ma petite synthèse sur les représentations des lieux. Donc on voit déjà, c'est juste pour mon fond de commerce, mais que la représentation qu'on peut avoir des lieux, elle est plus que mentale et fonctionnelle. Hein. On voit par exemple que le quartier des Peupliers, c'est une campagne à Paris qui est multisensorielle ou conviviale, puisqu'on a vu qu'il y avait deux groupes. Il y avait les jeunes habitants qui viennent d'arriver, qui sont plus dans le multisensoriel, et les anciens qui sont plus dans la convivialité avec la chorale et la fête du square. Ensuite, on a la rue Lagrange, qui est ce qu'on pourrait appeler un prototype du Paris bourgeois, puisque c'est le logement haussmannien fondé sur la représentation par excellence, qui est esthétique, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en fait, les habitants, leur grande fierté, c'est d'habiter là, d'être au cœur de Paris, et c'est ça qui compte le plus pour eux, qui est pollué et qui est d'un relationnel convenu, comme j'ai pu vous expliquer. Et ensuite, on a le troisième quartier, donc l'ensemble collectif du 10 Place Pinel, qui est beau et convivial. Les gens trouvent que l'espace vert est beau et qu'en plus la place est sympa. Donc on voit que l'hypothèse 1 est dépassée, c'est-à-dire que la représentation multisensorielle d'un lieu ne dépend pas uniquement de la présence de nature et qu'elle est le produit des interactions. Alors je vais développer un petit peu. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le quartier des Peupliers, c'est celui qu'on pourrait appeler le plus empreint de nature, entre guillemets, au sens traditionnel du terme. Et en fait, on se rend compte qu'il y a deux type de représentation, il y a deux représentations dominantes. Une qui est sur justement la présence de nature, liée à la nature qui est multisensorielle, et l'autre qui est plus sur la convivialité, malgré le fait qu'il y a beaucoup de présence de nature. D'accord ? Quelque part, il y a une espèce d'indépendance. D'accord ? Dans la rue Lagrange, là par contre, il n'y a quasiment pas de nature au sens même de droit. Et on voit que là par contre, il y a une adéquation entre le fait qu'il n'y ait pas de nature et qu'il n'y ait pas de représentation multisensorielle. Et pour l'ensemble collectif du 10 Place Pinel, il y a de la nature, entre guillemets, puisqu'il y a un espace vert qui est très important. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y a des bouleaux, il y a des sapins, il y a beaucoup de massifs de fleurs, il y a des rosiers. Enfin, il y a des choses intéressantes quand même dans cet espace-là. Eh bien, ça compte quasiment pas. C'est-à-dire qu'on reste dans le visuel, dans l'esthétique et dans le convivial. Voilà, donc c'est intéressant de voir que la place de la nature dans la représentation des lieux et dans la représentation multisensorielle des lieux, elle n'est pas certaine et elle dépend en fait d'une interaction. Les choses ne sont pas simples. Ma deuxième partie, bon, qui permet de répondre à la deuxième des hypothèses, où en fait je rentre plus précisément dans les entretiens. C'est-à-dire qu'en première partie, les représentations des lieux étaient fondées sur le plus petit dénominateur commun qu'il y avait entre les différentes personnes qui y habitent. D'accord ? Alors que là, je fais une typologie des habitants que j'ai rencontrés. Et donc, une typologie des manières de sentir son habitat. Donc, ça permet de comprendre, enfin, d'aller plus en avant sur l'analyse des sensibilités et d'aller plus en avant sur la place de la nature dans le fait de se sentir bien à Paris. Alors, j'ai traité, pour cette partie-là, les entretiens à l'aide d'un logiciel d'analyse textuelle qu'on appelle Alcest, que vous connaissez peut-être. Ce traitement-là met en valeur trois types de relations au lieu. Alors, j'ai mis au lieu d'habitat, c'est vrai que j'avais peut-être pas spécifié, c'est le lieu d'habitat qui m'a préoccupée dans cette étude-là, même si c'est le lieu d'habitat au sens large du terme. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez le concept de coquille de Maule, de coquille de l'homme de Maule. Maule et Romer, ils ont écrit un livre qui s'appelle « La psychologie de l'espace » en 78, chez Casterman, où il explique qu'en fait, selon les personnalités, quelque part, l'endroit qui est important pour nous et qu'on s'est approprié, à différentes envergures. Pour certains, ça peut être seulement la chambre ou la table de nuit, et puis pour d'autres, ça peut être le quartier et la ville. D'accord ? Donc en gros, l'habitat, il est à géométrie variable, selon la personne, selon l'âge, selon le sexe et selon l'étape de vie dans laquelle on est, tout simplement. D'accord ? Alceste a trouvé, entre guillemets, moi à travers Alceste, on a trouvé trois catégories de personnes. Il y a ceux qui sentent leur lieu, donc qui sont dans les sens, dans l'émotionnel et dans le plaisir. Il y a ceux qui ne le sentent pas, et on va voir que la relation à l'habitat à ce moment-là est beaucoup plus mentale. Et troisièmement, ceux qui ne peuvent pas le sentir, donc qui sont dans un émotionnel négatif par rapport à l'habitat. Alors oui, je peux développer pourquoi j'ai choisi le terme sens sentir, tout simplement parce que au sens concret, c'est l'action de percevoir olfactivement, donc ça tombe bien parce que moi je travaille toujours surtout sur l'olfactif, ou tactilement un objet ou une personne. Au sens abstrait, c'est le fait de percevoir positivement une action ou une personne. Quand on dit je le sens bien, c'est qu'on perçoit bien cette action. Ou d'être d'ailleurs dans un état de bien-être. Quand on dit « je me sens bien », ben, je suis dans le bien-être, ça tombe bien. Et quand on dit qu'on n'aime pas quelqu'un, on dit « je ne peux pas le sentir ». Donc voilà, ça correspond à nos trois catégories. Alors, on commence par la première grosse catégorie qui est ceux qui sentent leur lieu. Alors, j'ai trouvé plusieurs manières de sentir leur lieu. Une grosse première famille qui est dans une dimension donc multisensorielle et hédonique. Donc c'est des gens qui sont très sensibles au niveau sensoriel du terme et pour eux, c'est la notion de plaisir est importante. Premier groupe, ce que j'ai appelé aménager pour en faire un concombre protecteur, c'est-à-dire des gens qui, l'essentiel pour eux dans les entretiens, même au bout de 2 ou 3 heures d'entretien, c'était toujours leur logement dont ils me parlaient le plus. Hein. Donc pour eux, c'était l'essentiel, c'est d'aménager chez eux et de faire que leur chez eux soit le plus agréable possible. Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de dénonciations de perceptions multisensorielles. Alors, je vais vous donner une citation. Une sexagénaire, ancienne professeure de français dans un lycée parisien et veuve depuis peu, m'affirme. Il y a du froid, il y a beaucoup de vent. D'ailleurs, les façades, les murs, on les fait réparer. Mais l'humidité de la Seine et le vent, les peintures des fenêtres s'abîment comme si on était sur un bateau. C'est un environnement très particulier. On voit la perception multisensorielle. En général, en majorité, c'est des femmes. Et en général, c'est des personnes qui habitent la rue Lagrange. Ces groupes de personnes sont son lieu au sens concret du terme à travers une perception multisensorielle. On pourrait rentrer dans l'analyse, mais je ne vais pas trop y aller. C'est-à-dire le fait que ça soit des femmes. C'est vrai que culturellement, le domaine, la sphère domestique est dévolue au genre féminin. Donc il y a peut-être quelque chose qui vient de là. Ensuite, deuxième manière de sentir son lieu, c'est le fait d'admirer Paris. Alors là, on est vraiment dans une perception visuelle et esthétique, hein, mais qui reste quand même du domaine de la nature. Et ça va peut-être vous étonner parce que je vais vous donner des citations, puisque c'est des choses qui nous enchantent, voire la définition de droit. Alors, je vous donne également une citation. Bon, c'est une documentaliste qui parle. On se balade, il y a des petites balades, il y a des rues sympas. Le Marais, la place des Vosges, le quartier juif, le quartier gay et tout ça, je trouve ça beau. Donc toujours cette documentaliste qui côtoie la soixantaine. C'est pas relié à un sexe, cette fois-ci, c'est relié à une classe d'âge. C'est des gens qui ont entre 50 et 70 ans. C'est vrai que c'est là la classe d'âge où on a plus les enfants à s'occuper, où on a un peu plus de temps. En général, on est en retraite ou en pré-retraite. Donc voilà, il y a un peu de temps et on a aussi la santé pour pouvoir se promener. Et en général, c'est également des personnes qui habitent rue Lagrange. Alors, on voit dans cette grande première famille où sentir le lieu est lié à une dimension multisensorielle et hédonique, l'importance donc de la nature dans le fait de se sentir bien. Alors, on a vu au niveau d'aménager pour en faire un cocon protecteur, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, la pluie, le vent, la lumière, hein, d'accord. Et dans admirer Paris, paradoxalement, c'est surtout les monuments historiques, mais c'est ce qui peut nous enchanter selon la définition de droit. On a une troisième sous-catégorie qui est la dimension émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sentent leur lieu, mais que d'une manière émotionnelle. Donc, qu'est-ce qui va compter pour eux? Ça va être d'être entouré affectivement, soit par la famille, soit par les voisins, soit par les amis. Et également, il y a une grande place pour les animaux domestiques. Alors ça, c'est une classe où c'est surtout les femmes qui sont représentées. Alors soit des femmes qui ont des jeunes enfants, soit des personnes âgées. Et en général, ce sont des personnes qui habitent Place Pinel. Alors je vous donne également une citation, une première citation d'une diplomate à la retraite qui habite le Square des Peupliers. Les enfants jouaient dans l'impasse, ça me paraît tellement loin, avec la dernière qui a 25 ans. Je donne une autre citation. Les gens ici, ils sont gentils. Il y a de jeunes femmes qui sont arrivées là. Elles étaient bébés et maintenant, elles sont mamans, raconte une personne, concierge depuis 20 ans, Place Pinel. Voilà. Donc, pour ces personnes-là, l'important, donc, j'ai mis prima de la famille, des animaux domestiques, des voisins. Voilà, l'important, c'est d'être entouré affectivement. Alors là, Il semble vraiment que la présence de la nature, qu'elle soit au sens traditionnel du terme ou au sens élargi, n'entre pas dans le fait de se sentir bien dans son lieu. Alors ceux qui ne le sentent pas, enfin, j'y arrive, j'étais allée un petit peu vite tout à l'heure. Alors ceux qui ne le sentent pas, ça veut dire qu'ils ne l'aiment pas. Hein. C'est pas ceux qui ne peuvent pas le sentir, c'est ceux qui ne le sentent pas tout simplement. C'est-à-dire que la dimension multisensorielle, hédonique et émotionnelle ne rentre pas dans l'essentiel de leur relation au lieu. Alors il y a un premier groupe qui est l'essentiel pour eux à Paris, c'est de construire localement un vivre ensemble. Donc là c'est surtout des hommes, des artisans, des commerçants, des responsables associatifs, et c'est surtout des hommes du quartier des Peupliers. Je vous donne une citation. J'ai beaucoup travaillé quand même à l'animation de l'association au départ. On faisait des réunions à caractère, si on veut, vivant, et l'objectif était de créer une vie de quartier, me raconte un professeur de physique, père de deux jeunes enfants, habitant une maison du quartier des Peupliers. Voilà. Donc sentir son lieu pour ces personnes, c'est une question de réseau relationnel et de dynamique associative, une réalité éloignée des dimensions sensibles. Deuxième type de groupe, c'est des gens pour lesquels l'essentiel, c'est de circuler. Alors là, c'est surtout des jeunes actifs et des jeunes parents qui habitent le quartier Lagrange ou le quartier des Peupliers. Donc, je vous donne également une citation pour rendre ça un peu plus vivant. Une femme trentenaire née de métier me décrit son trajet quotidien pour aller au travail. C'est toujours agréable. Je prends le métro parce que c'est plus rapide et ça me mène directement là où je veux. C'est direct, il n'y a pas là de circulation. Je travaille à Levallois, à trois quarts d'heure d'ici. Vous faites bon deux lignes de métro et ça vous dépose en trois quarts d'heure. Voilà, alors circuler constitue leur manière d'investir l'espace urbain. Malgré le mouvement que cette action implique, cette propension n'apparaît que très secondairement motivée par son aspect sensoriel. C'est-à-dire que dans circuler, il y a des gens qui font du vélo. Mais quand on leur demande pourquoi ils font du vélo, ils disent pas que c'est parce qu'ils aiment sentir l'air, la pluie et sentir les odeurs. Donc c'est parce que ça va vite. Troisième catégorie, c'est ceux qui ne peuvent pas le sentir, les gens qui ne peuvent pas sentir leur lieu. Alors j'ai rencontré une dizaine de personnes dont le contenu de l'entretien m'a montré qu'ils étaient, en tout cas, qu'ils ne se sentaient pas bien. Des gens qui avaient entre 30 ans, enfin, allez, on va dire 20-40 ans, et soit des personnes de plus de 60 ans. Donc les plus de 60 ans, on sentait qu'elles n'étaient pas bien par l'évaluation négative qu'elles faisaient du voisinage. Donc je vous donne une citation. Une ancienne institutrice habitant le square des Peupliers s'est plainte longuement de ses relations avec ses voisins. Si la convivialité était mieux, mais ici les gens sont pas... Ça a l'air de gens très gentils, très aimables, mais... Et les moins de 60 ans, donc c'est une évaluation, par contre, négative du cadre de vie, du cadre physico-chimique. Donc ça, si vous voulez que je vous explique pourquoi je mets physico-chimique, ça sera pour tout à l'heure. Alors, je vous donne encore un exemple. Une femme, conseillère d'orientation dans un collège, nouvellement arrivée dans la résidence du 7 Place Pinel, emploie des mots forts pour parler de la pollution, alors qu'elle utilise sa voiture pour de petits trajets, comme aller chercher du pain ou aller chercher sa fille à l'école. Je suis très sensible au fait que l'on s'empoisonne petit à petit. Ça m'énerve, parce qu'on est complètement otage. Je me sens otage dans cette histoire. On n'a pas les moyens de lutter. Les pouvoirs n'ont pas les moyens, plutôt la volonté de prendre des mesures draconiennes pour lutter contre la pollution. Ah, assez étonnant, hein, cette jeune femme. Donc voilà, évaluation négative du cadre physico-chimique. Alors la question qu'on peut se poser, c'est d'abord, quelle place de la nature dans cette évaluation négative ? C'est-à-dire que dans les moins de 60 ans, qu'est-ce qui fait, est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui vient du cadre de vie du fait qu'il y a de la nature ou pas de nature qui influe sur leur mal-être? Donc ça, c'est une question qu'on peut poser. Quelle part, alors ça, c'est une question qui pour moi est plus essentielle, tient le mal-être personnel dans ces évaluations négatives de l'environnement? Puisqu'en fait, je vais aller relativement vite, mais le mal-être est du domaine de l'émotionnel. Et en fait, au niveau des neurosciences, on sait que, en fait, le cadre physico-chimique, physiologique, en fait, ne peut influencer, ne peut jouer que sur le domaine physiologique, c'est-à-dire que sur le domaine de la douleur et du bien-être. Donc, le cadre, la matérialité, ne pourrait pas influencer et jouer sur l'émotionnel négatif. Donc, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en gros, le fait d'être mal quelque part viendrait de soi-même et de son histoire et pas du quelque part. Avec des grandes exceptions. C'est-à-dire que si vous prenez, je suis sûre que vous avez déjà vu ça comme moi, mais des SDF qui vivent sous un pont autoroutier, par exemple, là, oui, il y a bien une dimension de la matérialité, mais là, c'est une matérialité qui est inconfortable à l'extrême et qui est même invivable.
veux dire, vivre dans la pollution, au bout d'un moment, on est malade, d'accord ? Mais dans le cadre d'habitat où, je veux dire, il y a un minimum de confort, a priori, la place, en tout cas, des caractéristiques de l'environnement dans le mal-être est vraiment, vraiment moindre. Après, dernière question, pourquoi se révèle-t-il par une appréciation négative de l'environnement social pour les plus anciens et physico-chimique pour les plus jeunes ? Ça, je n'ai pas de réponse. Donc, on termine par les questions soulevées donc, par cet exposé. Alors déjà par rapport à la deuxième hypothèse, par rapport à un lieu donné et malgré sa nature, différentes manières de le sentir en fonction des sensibilités. On a vu des gens qui étaient plus dans l'émotionnel, d'autres qui étaient plus dans le plaisir, d'autres qui étaient plus dans le mental. Sachant qu'en fait, j'ai un petit peu caricaturé, c'est-à-dire que quelqu'un qui est plus dans le mental peut tout d'un coup avoir une relation à un lieu de l'ordre de l'émotionnel parce que c'est là qu'il a passé son enfance, d'accord ? Donc les questions qui restent, c'est quelle part du physiologique, de l'individuel, du social et du culturel dans ces différents sentirs ? C'est-à-dire dans nos manières d'être, qu'est-ce qui vient de notre histoire ? Qu'est-ce qui vient de notre physiologie, de notre nature d'animal, entre guillemets ? Qu'est-ce qui vient de notre milieu social et qu'est-ce qui vient de notre culture ? Ça, c'est une grande question, voilà, à laquelle je n'ai pas répondu. Et alors là, c'est pour revenir au sujet plus précisément du pôle ville. C'est-à-dire que l'opposition nature-culture est dépassée. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu. C'est-à-dire que je peux revenir un petit peu en arrière. Voilà, dans la classe Admirer Paris, c'est de la perception visuelle et esthétique. C'est des choses qui nous enchantent et en même temps, ça vient du monument historique, ça vient des choses qui sont vraiment culturelles. Donc c'est ça qui est intéressant, enfin, j'ai trouvé par rapport à la question du séminaire de cette année, c'est-à-dire qu'on est, on peut plus être dans l'opposition de la nature, nature et culture. Quelle autre ? Alors la question, c'est quelle autre opposition heuristique pour étudier la ville ? Puisqu'évidemment, le choix d'une opposition, même si elle est implicite hein, dans l'intitulé du pôle ville, c'est pour nous faire avancer dans la connaissance de la ville. Donc quelle autre opposition choisir ? Alors je voulais terminer pour vous dire qu'en fait j'ai absolument rien inventé, c'est-à-dire que c'est Lévi-Strauss qui le premier a voulu dépasser cette opposition-là en parlant du sauvage et de l'artifice, alors savoir est-ce qu'en ville ça pourrait fonctionner et nous apporter des choses, d'accord ? Sachant qu'aujourd'hui on a Philippe Descola qui en fait était un étudiant de Lévi-Strauss qui parle aujourd'hui des cultures de la nature. Il y a également Nicole Mathieu qui est géographe. Et on a également Augustin Berck et Nicole Mathieu qui travaillent également sur cette question-là. Merci.